Bienvenue sur le podcast Une Session Presque Parfaite, le podcast qui rentre dans les coulisses de la transmission d'entreprise. L'objectif ? Aller à la rencontre de dirigeants qui ont vendu ou qui ont tenté de vendre leur entreprise, mais également échanger avec des avocats d'affaires, des investisseurs, des conseillers en session d'entreprise pour obtenir toutes les clés de réussite d'une telle opération. Je suis Eliott Samoun et je suis conseiller en session et financement d'entreprise.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sylvain Clavet, avocat fondateur de Clavet Avocat, qui est venu donc nous parler de Club Deal et de leur structuration juridique. Bonjour Sylvain.
Bonjour Eliott, merci de m'accueillir.
Merci à toi surtout de partager de ton temps pour transmettre ton expertise justement sur cette solution d'investissement qu'est le Club Deal. Alors déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire voilà, ce que tu fais, ton cabinet et voilà, ton positionnement?
Alors moi je suis avocat depuis 14 ans, je viens de fonder mon cabinet en tant que solopreneur on va dire. J'ai donc un collaborateur qui vient de me rejoindre. Je constitue petit à petit une équipe, ma petite dream team, on va dire. J'interviens sur deux pans aux côtés de mes clients. D'abord, le droit des sociétés, donc les levées de fonds, les constitutions de sociétés, les acquisitions, les fusions. Et puis, en réglementation bancaire et financière, ce qui me permet d'accompagner les acteurs régulés de la finance, type conseiller en investissement financier, les sociétés de gestion de portefeuille, mais aussi les plateformes de crowdfunding ou, de façon un petit peu plus exotique, les acteurs de la crypto, de la crypto-monnaie, des crypto-monnaies, des crypto-actifs.
Très bien. Donc, tu travailles à la fois pour des chefs d'entreprise, mais aussi voilà, pour des fonds d'investissement, des investisseurs aussi qui souhaiteraient participer voilà, à un Club Deal qui est le sujet de notre podcast.
Tout à fait. Et le sujet du Club Deal est au cœur de ma compétence. En tout cas, j'ai de la modestie de le croire. Parce que tu vas avoir des sujets de droit des sociétés très importants qui vont être au centre des préoccupations du fondateur de Club Deal. Et nécessairement, il y a pas mal de réglementations qui viennent se télescoper sur cette activité-là. Donc, je suis comme un poisson dans l'eau sur ces sujets de Club Deal.
Mais c'est un sujet passionnant et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aussi justement t'interviewer, Sylvain, parce que t'es expert sur ce sujet-là et je vois depuis quelques temps que le Club Deal est un sujet intéressant. Alors, on parle de Club Deal, mais on n'a pas encore expliqué ce que c'est. Alors, première question, Sylvain, si tu peux nous répondre, évidemment. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est exactement un Club Deal en termes simples?
Tout à fait. Alors, le Club Deal, c'est un groupement d'investisseurs qui sont réunis en tant que co-associés au sein d'un véhicule, un véhicule commun d'investissement. On va parfois parler de SPV, Special Purpose Vehicle. Et souvent, on va se retrouver avec un investisseur leader qui va être celui qui va mettre le plus gros ticket et qui va fédérer autour de lui tout un tas d'investisseurs de taille un petit peu plus modeste, on va dire. Et donc, plutôt que d'investir individuellement, les investisseurs se groupent en club, désolé pour la porte enfoncée, et pour partager les risques et les bénéfices de cet investissement. Donc, les investissements portent souvent sur des actifs immobiliers, mais aussi sur des valeurs mobilières, type actions, obligations. Et ça va être le cas, notamment lorsque le Club Deal a vocation à investir dans des startups ou des sociétés intervenant dans un domaine particulier. Et ces transactions sont en fait plus importantes que si on investissait tout seul. Ça permet, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc c'est un peu ça l'idée. On fait des transactions plus importantes et on se retrouve avec des rentabilités qui sont aussi plus importantes que si on était seul et qu'on investissait un tout petit ticket. Et ça nous permet donc d'avoir des rendements qui sont autour de 8 à 12% par an, avec la contrepartie évidente du risque, puisque plus c'est risqué, plus c'est rentable.
Et le risque du site d'illiquidité, bon, on en reviendra peut-être, je ne sais pas, par la suite, s'il y a aussi, comme une société de gestion, un fonds d'investissement classique, le fait de ne pas pouvoir aussi peut-être revendre ses titres ou le bien qui a été acquis pendant un certain laps de temps. Je ne sais pas si ça fait partie aussi des risques qui...
C'est tout à fait, les risques de liquidité. Enfin, l'absence de liquidité est quand même assez inhérente au sujet des club deals. C'est difficile de trouver un acquéreur pour une SAS Tartampion.
Je valide.
Voilà.
Et toi, de par ton expérience de plus de 10 ans en tant qu'avocat, justement, est-ce que tu constates qu'il y a une émergence de club deal avec un attrait de plus en plus important qui parce que voilà, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de qui va être mon associé. Par exemple, je ne sais pas, le club deal d'Anthony Bourbon. Est-ce que l'émergence du club deal, c'est lié aussi à un manque de solutions intéressantes d'un autre côté? C'est lié aussi au branding, justement, de certains structures de club deal. Par exemple, voilà, Anthony Bourbon qui fait jouer aussi son image de marque. Voilà, comment tu palpes, justement, cette...
Alors, moi, j'observe déjà qu'il y a une... Enfin, encore une fois, enfoncer une porte ouverte, désolé.
Ouais, non, mais je t'en prie.
Mais, tu en observes une grande tendance à la démocratisation du private equity. On a envie de faire en sorte que la veuve de Carpentras investisse dans des actifs... style start-up et autres joyeusetés. Donc ça, c'est pour moi le développement que j'observe des club deals s'inscrit dans cette logique, cette logique de démocratisation tout d'abord. Et puis malheureusement, je ne peux que constater que la réglementation financière fait peur. Elle est souvent synonyme de coûts et de contraintes. Le club deal est quelque chose d'assez peut-être quelque chose d'assez light en termes de réglementation, ce qui lui donne un certain attrait et permet de le voir se développer de plus en plus en ce moment.
Bah justement, Sylvain, alors déjà merci beaucoup pour cette réponse. Alors en fait, quels sont les principaux justement avantages juridiques des club deals par rapport à d'autres structures d'investissement?
Alors, pour réduire la question à un sujet simple, les structures d'investissement autres que les club deals vont être souvent des fonds d'investissement classiques gérés par des sociétés de gestion de portefeuille. Ces sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'AMF, c'est ce que je viens de dire. Hein, on est dans un domaine complètement régulé. Et donc, ça va être ça, la grande différence et l'avantage pour celui qui veut se lancer dans le montage d'un club deal. Et donc, parce que les club deals ne sont pas nécessairement régulés, a priori, et ils vont disposer d'une plus grande flexibilité de fonctionnement au niveau de sa gouvernance, de son... Enfin, voilà, puisque... le fonds classique régulé va être sous la houlette d'une société de gestion avec toutes les obligations qu'on connaît vis-à-vis de l'AMF. Là où le club deal va être plus agile, plus flexible et en plus va bénéficier du régime lorsqu'il est constitué sous forme de société par action simplifiée ou SAS, il va bénéficier d'une grande liberté contractuelle. Puisque la SAS est gouvernée par ce grand principe. Et puis, si on continue à tirer la bobine de la SAS, le club deal, en tout cas, mon expérience des club deals me permet de constater que la plupart est constituée sous forme de SAS, comme je viens de le dire, mais avec une certaine flexibilité avec la variabilité du capital qui permet de faciliter les entrées et les sorties des investisseurs.
Merci beaucoup, Sylvain. Bah justement, tu as parlé donc du fait que les club deals n'étaient pas aussi régulés que le sont les sociétés de gestion classiques, on va dire. Alors, quelles sont les principales réglementations auxquelles les club deals, justement, sont soumis?
Alors, les réglementations, elles sont de trois ordres. Tout d'abord, tu vas avoir la réglementation sur le prospectus. C'est les règles de commercialisation des titres vifs auprès du public. Lorsque tu fais une offre, dite offre au public de titres financiers, et que tu dépasses 8 millions d'euros, sur 12 mois glissants, tu vas avoir l'obligation d'établir et de faire approuver par l'AMF ce qu'on appelle un prospectus. Très simplement, un prospectus, c'est un document qui fait de nombreuses pages, qui présente l'émetteur, qui présente les modalités de l'offre, tout un tas d'informations très importantes. Et ce principe donc, de l'obligation d'établir un prospectus connaît de nombreuses exceptions, dont celles qui vont nous intéresser principalement sur le Club Deal. Les offres qui sont réalisées auprès de ce qu'on appelle un cercle restreint d'investisseurs, et celles qui sont réalisées auprès d'investisseurs qualifiés. Alors, je suis obligé de creuser ces deux notions, parce que sinon on va perdre tout le monde. Le cercle restreint, c'est donc une offre qui s'adresse à un cercle restreint d'investisseurs, c'est une offre qui est limitée à 150 destinataires, pas 150 souscripteurs. Donc je n'ai la possibilité de proposer la souscription à 149, puisque la limite de 150 s'apprécie de façon stricte. Et donc tu as 149 destinataires de l'offre, et donc on est dans le cercle restreint d'investisseurs, et donc on n'a pas besoin d'établir un prospectus. Ça c'est une des nombreuses exceptions, mais c'est celle qui nous intéresse en particulier. Et tu n'as pas non plus besoin d'établir un prospectus lorsque ton offre s'adresse à des investisseurs qualifiés. Alors, les investisseurs qualifiés, très simplement, ce sont les clients professionnels ou les clients qui souhaitent être traités comme des professionnels et qui ont exprimé cela auprès de leur distributeur. On parle alors de contrepartie éligible. Tu as encore une autre exception au principe du prospectus. Ce sont les offres dont le montant par investisseur est de 100 000 euros minimum. Donc, c'est le ticket qui va donner l'indice selon lequel en fait, tu es face à un investisseur professionnel, un investisseur qualifié, il peut mettre 100 000 euros, par définition, on va dire. Et tu as une autre exception qui te permet de faire une offre au public en dessous des 8 millions d'euros, lorsque tu n'es pas dans un cercle restreint d'investisseurs et lorsque tu ne t'adresses pas à des investisseurs qualifiés. C'est une offre qui va nécessiter toutefois l'établissement de ce qu'on appelle un document d'information synthétique, DIS. Et ce document, donc c'est un prospectus, on va dire, ultra simplifié. Voilà, c'est très normé et ça va... On va dire dans le même esprit que le prospectus présentait tout un tas d'informations sur l'émetteur et sur l'offre. Et tant ce DIS que la documentation commerciale vont être déposées à l'AMF et le DIS va être publié sur le site internet de l'émetteur. Dans ce cas, toutefois, le Club Deal, s'il passe dans ce régime, ne peut pas être constitué sous forme de SAS.
D'accord.
Voilà.
Important.
C'est hyper important parce que une SAS qui ferait un DIS, ça fonctionne pas, tout simplement. Et c'est important de le relever parce que tout ce qui est hors cadre encourt une nullité, tout simplement, qui serait a priori catastrophique puisque
bien sûr,
une nullité
oui.
d'irrestitution des
tout
souscriptions. Donc voilà. Ça, c'était la première réglementation. J'en ai parlé un petit peu longtemps, mais...
Non, justement, c'est important. Alors, justement, concernant la première réglementation, en fait, de ce que je comprends, tout va dépendre de la stratégie, en fait, initiée par le Club Deal. Et donc, toi, en tant qu'avocat, t'aides justement tes clients à définir la stratégie, qui est-ce qu'on vise, qui est-ce qu'on va cibler, auprès de qui on va lever, parce qu'au final, c'est ça qui va déterminer toute la structuration derrière.
C'est exactement ça. Moi, je suis là pour donner le cadre et guider celui qui veut monter un Club Deal dans la structuration juridique et réglementaire. Et donc, finalement, le business, c'est-à-dire qui est ma clientèle et comment est-ce que je l'approche et comment je fais pour lui parler. Alors, ça me fait une transition idéal par rapport à comment je fais pour parler à mes investisseurs. La deuxième réglementation qui s'applique dans le cadre des Club Deal, c'est celle de l'interdiction du démarchage bancaire et financier. C'est hyper important parce qu'on observe souvent que des porteurs de projets de Club Deal vont faire à peu près n'importe quoi et vont démarcher comme des sauvages des investisseurs. On se retrouve avec des emails et des massifs, des messages sur LinkedIn.
J'en ai déjà reçu, ouais.
Voilà. Regardez, c'est génial, j'ai un super club deal.
C'est juste que j'ai pas d'argent pour l'instant en mettant.
C'est ça. Mais voilà, là on est, pour moi, on est un peu à côté de la plaque en termes de respect de cette réglementation. Alors, petit point de définition, le démarchage, c'est une prise de contact non sollicitée en vue de souscrire des titres. Donc, enfin, à contrario, si vous avez demandé à l'être, a priori, on peut être démarché. Si on fait partie déjà du fichier client, on a la possibilité d'être démarché. Donc, il y a un grand principe d'interdiction du démarchage bancaire et financier, mais il y a évidemment, sinon c'est pas drôle, tout un tas d'exceptions sur lesquelles on peut...
contourner, enfin pas,
alors, contourner, pas
parce
pas
que contourner c'est un peu
utiliser,
oui,
ouais, non, on peut utiliser c'est
contourner des... j'ai oublié que j'ai face à moi un avocat, faut que j'utilise les bons
s'il
mots
te parce que... s'il te plaît oui, donc ce sont des exceptions qu'on peut utiliser pour pouvoir arriver à ses fins, puisque le but du jeu c'est quand même de lever ce satané club deal pour faire en sorte qu'il ait le succès que le porteur de projet attend. Voilà. Et la troisième réglementation, le troisième corps de texte, c'est un point qui est aussi assez méconnu, et c'est le risque de requalification en fonds d'investissement alternatif qu'encourt le véhicule. En fait, tu as une directive dite AIFM de 2017 qui a élargi ce risque à tout un tas de véhicules. Donc, c'est pas un risque, mais c'est qui a élargi une définition, qui a rendu une définition assez large de ce qui pouvait être considéré comme un fonds d'investissement alternatif. D'accord. À partir du moment où tu as un véhicule qui lève des fonds auprès d'investisseurs en vue de les investir, deuxième condition. Troisième condition, selon une politique d'investissement prédéfinie, eh bien, ce véhicule, par principe, peut être qualifié de fonds d'investissement alternatif. Alors, s'il répond à cette condition, eh bien, ça veut dire qu'il doit être géré par une société de gestion de portefeuille.
D'accord.
Et là, ça ne fonctionne pas pour les clubs deal qui souhaiteraient ne pas passer par la case société de gestion. Donc, il faut s'assurer que le véhicule ne réponde pas à cette condition, et puis enfin ces trois conditions, cette définition, et tout un tas de d'exceptions et de précisions qui sont données par la doctrine. Je vais en faire l'économie à ce stade, mais ce qu'il faut retenir, et c'est le point principal là-dessus, c'est que si tu arrives à faire en sorte que ton véhicule soit quelque part autogéré et qu'on ne soit pas dans une gestion discrétionnaire qui aurait été confiée à un tiers, donc à un gérant, eh bien, tu peux espérer ne pas être requalifié en fonds d'investissement alternatif. Donc ça va, c'est là qu'on va apporter un soin tout particulier à la gouvernance, puisqu'il va falloir décentraliser la prise de décision et donner, dans le cadre d'une sorte de démocratie actionnariale, un pouvoir aux actionnaires sur les décisions d'investissement, de désinvestissement et tout le tout-il.
Alors, c'est super intéressant. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux juste définir ce que c'est un fonds d'investissement alternatif? Est-ce que c'est...
C'est un fonds d'investissement alternatif, tu vas avoir tous les fonds qui sont gérés par les sociétés de gestion de portefeuille.
D'accord.
Que tu peux connaître... un FCPR,
okay.
un FPCI, Fonds Professionnel de Capital Investissement, un FPS, Fonds Professionnel Spécialisé, toutes les SLP, voilà.
D'accord, tout, ok, ça marche.
Tous ces véhicules-là sont FIA, j'en oublie évidemment. Mais,
oui, non, mais tout à fait, c'était voilà, pour qu'on sache justement de quoi on parle, mais c'est très bien et c'est... J'aime beaucoup ce sujet-là, justement. Donc, tu as parlé de la structuration juridique, des réglementations, Sylvain. Alors, quels sont les principaux, justement, défis juridiques auxquels les investisseurs peuvent être confrontés quand ils vont participer à un club deal?
Alors, je viens de parler assez longuement de la réglementation. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Lorsque je suis investisseur dans un club deal, j'ai tendance à faire confiance un peu à mon interlocuteur. Et je pars du principe qu'il a bien tout baqué et que voilà, tout est carré. C'est parfois pas le cas, c'est souvent pas le cas même, je dirais. Donc ça, c'est un point pour les investisseurs, c'est, entre guillemets, ne pas faire confiance, remettre en question un petit peu ce qui leur est soumis, et puis voilà, s'assurer qu'on est bien dans le cadre de la réglementation, d'où la nécessité d'avoir des petits réflexes du genre, bah, dans quel cadre d'exception au prospectus est-ce que je me trouve, est-ce que j'ai fait l'objet d'un démarchage sauvage avant de souscrire, et est-ce que le véhicule dans lequel j'investis ne pourrait éventuellement être requalifié en fonds d'investissement alternatif alors qu'il n'y a pas de société de gestion de portefeuille dans la boucle. Donc ça va être un point. Et une fois que ces points-là sont validés et qu'on est... alors, mon hypothèse, ça va être je suis dans un club deal non régulé dans lequel on a réussi à s'éloigner le plus possible de la qualification du FIA. On est dans cette fameuse gouvernance décentralisée. Eh bien, je remets une casquette d'investisseur. Mon premier conseil, c'est de dire est-ce que vous êtes sûr que vous êtes prêt à participer à cette gouvernance ? Vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut s'investir nécessairement. Donc c'est aussi le conseil que moi je donne à mes clients porteurs de projets. Tu vas aller chercher des investisseurs. On va décentraliser la gouvernance. Donc prépare tes investisseurs à être investis. S'ils veulent être sleeping et donner des mandats de gestion à des tiers, y a les sociétés de gestion de portefeuille pour ça.
Et toi, de par ton expérience, justement, comment sont généralement structurés les club deals d'un point de vue juridique ? Est-ce que voilà, c'est plutôt une SAS ou...
Alors, souvent, effectivement, on va être dans une SAS parce qu'on on va... alors, je dis souvent, mais pas forcément, mais tu vas avoir des SAS, oui. Comme je te disais tout à l'heure, lorsque tu fais une levée de fonds d'un montant inférieur à 8 millions d'euros avec un DIS, tu ne peux pas être en SAS, donc ça va être nécessairement une SA ou une société anonyme ou une SCA, une société en commandite par action. Voilà. Et par défaut, tu vas effectivement être face à une SAS à capital variable qui va être simple, efficace et qui va faire le job. Ce qui est important quand même de retenir, c'est que si je suis dans le cadre du DIS et que je suis obligé d'être dans une SA ou une SCA, je dois assumer d'être confronté au fonctionnement un petit peu plus, on va dire, lourdingue ou pachydermique.
Ah, mais tu peux le dire.
de la société anonyme, avec un conseil d'administration, avec des délais de convocation plus lourds, avec un formalisme très, très, très lourd et enfin, ça arrive à des gens très bien, hein, d'être en SA ou en SCA, mais voilà, il faut assumer. Et puis, alors moi, je suis un peu moins dans ma zone de confort lorsque je suis confronté à ces sujets-là, mais tu vas avoir souvent dans les projets immobiliers des sociétés, des SCI, des sociétés civiles immobilières. Moi, je suis moins fan, notamment parce que ça va être des sujets très fiscaux.
Ouais. Ce qui est pas avec mon... des risques des aussi voilà. Ouais. C'est très réglementé, très surveillé par l'administration, donc effectivement c'est
ça. Et puis tu vas avoir une les investisseurs sont pas forcément super fans à l'idée d'apparaître dans les statuts, parce que dans une société civile comme on est des porteurs de parts, il n'y a pas l'anonymat qui est proposé par les SAS et SCA. Donc voilà, ça va être ça la structure les différentes structures de Club Deal.
Merci beaucoup pour cette belle réponse, Sylvain. Tu as parlé tout à l'heure de l'importance justement de la gouvernance, qui est un élément clé dans la structuration d'un Club Deal. Alors, quel est son rôle concrètement à cet aspect-là de gouvernance et comment est-elle généralement mise en place ?
Alors, je te le disais, l'idée c'est, je me répète, mais on va dire que la pédagogie c'est la
répétition. Oui, bien sûr, exactement. C'est ce que j'ai essayé de me dire.
la gouvernance décentralisée permet d'éviter la qualification en fonds d'investissement alternatif, en tout cas sous toute réserve. Mais pour ce faire, il faut donc apporter un soin tout particulier à cette gouvernance et donner des vraies attributions, des vraies prérogatives à l'Assemblée générale des actionnaires. Quand je dis donner des vraies prérogatives, c'est aussi tenir compte de leur nombre pour rendre vraiment l'Assemblée générale représentative.
D'accord.
Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, on ne va pas s'amuser à mettre un quorum de 10% du capital pour dire « Coucou les gars, est-ce que vous voulez investir dans tel projet ?» Et il y a 10% qui se réveillent et qui disent « Oui, c'est bon, on y va. » Non, on va essayer quand même de donner donc une vraie représentativité en augmentant les quorums.
D'accord.
Plutôt aux alentours de 3 quarts, 4 cinquièmes. Pour que vraiment, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde se sente... concernés par les impliqués, concernés par les sujets. Et de la même manière, les majorités. Voilà, j'ai 80% des personnes qui sont présentes à l'Assemblée générale. Je vais m'assurer que ce soit un peu plus de la moitié qui soit, ou nettement plus que la moitié, qui soit favorable à cet investissement ou à ce désinvestissement. Donc ça c'est un premier point. Et après, on peut décliner ça quand on est un petit peu trop nombreux, on a aussi des strates de gouvernance qu'on peut imaginer, style comité d'investissement, toujours pareil, avec une représentativité la plus importante possible, pour que les actionnaires et leurs représentants soient le plus de fois possible consultés dans le process d'investissement.
Très bien. Oui, tu voulais rajouter quelque chose sur cette question, sur la gouvernance ? Alors, on vient de parler de la gouvernance qui est un élément clé, mais il y a aussi les aspects opérationnels qui sont aussi clés dans la structuration d'un club deal. Alors, quels sont ces aspects opérationnels auxquels les participants à un club deal doivent prêter attention, Sylvain ?
Je pense qu'il y a un sujet qui est important, c'est les projets.
Ouais.
Comment est-ce que le process du sourcing à l'investissement est formalisé? Qui est à la manœuvre pour le sourcing? Ouais. Quels sont les critères? Comment est-ce qu'on se décide? Est-ce qu'il y a des sous-comités, des comités, etc.? Donc c'est toutes ces choses-là qu'on peut travailler.
Parce qu'il y a une thèse d'investissement comme un fonds qui conditionne justement la sélection de ces cibles.
Alors plus, je ne me suis pas suffisamment arrêté sur ce point tout à l'heure. Si, qui dit thèse d'investissement dit politique d'investissement.
Oui, ah oui.
Et la politique d'investissement, c'est un des critères essentiels de qualification du véhicule en fonds d'investissement alternatif. Alors, je te donne un exemple. Thèse d'investissement, j'investis dans des startups de la cybersécurité en Franche-Comté qui font plus de 3 millions de chiffre d'affaires. Ceci est une politique d'investissement.
C'est ça, d'accord, ok, très bien. Toi, comme quoi, c'est important de le re-mentionner.
Voilà. Et donc, sur le sujet sourcing critères, etc., il faut aussi faire attention, quand on met sa casquette d'investisseur, à la gestion des conflits d'intérêts. Il m'arrive, quand je suis côté investisseur, de creuser un peu et de poser des questions sur ces sujets-là. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas bien géré. On se retrouve avec un sourcing qui pourrait être fait par une société amie, slash contrôlée, slash dirigée par quelqu'un qui est déjà impliqué dans le club deal. Voilà, donc ça, c'est, il faut vraiment que ce soit très, très clair, il faut poser des questions. Sur comment vient ce projet, qui l'a apporté, qui est rémunéré pour ça. C'est hyper important. Donc ça, c'est un des premiers aspects opérationnels. L'autre aspect opérationnel, je vais enfoncer encore une fois une porte ouverte, mais c'est l'équipe dirigeante. Qui est-ce qu'on a en face de nous? Est-ce que ce sont des gens bien? Est-ce qu'ils sortent de prison? Je plaisante, mais...
Vous faites ce travail-là de KYC? Forcément...
Nécessairement, ça fait partie des choses qu'on va vérifier. C'est plus des sujets de comment dire de fiabilité des personnes. Merci pour le
blocage.
J'étais en boucle. On va vérifier la fiabilité des gens. Quel est leur background? Est-ce qu'ils en sont à leur coup d'essai? D'où est-ce qu'ils sortent? Voilà.
Tout à fait.
Ça, c'est important. Quelle est leur expérience? Et puis, autre sujet hyper important, c'est la structure des rémunérations.
Ouais.
Comment est-ce que je enfin combien ça me coûte quoi et est-ce que la gestion opérationnelle du club deal donne lieu à des rémunérations, est-ce qu'elle est fixe, est-ce qu'elle est variable, est-ce que donne lieu parfois, enfin il peut arriver qu'elle donne lieu à ce qu'on appelle un carry d'interest.
Ouais.
Ça c'est une pratique très répandue dans le domaine du private equity. Qui consiste à permettre à l'équipe de gérance, de gestion, d'un fonds. Alors là, je te définis le carry d'interest avec le prisme société de gestion de portefeuille. L'équipe de gestion va se voir attribuer par priorité environ 20% de la plus-value, pour faire simple. Et c'est ce qu'on appelle le carry d'interest. Parfois, on observe que ce modèle-là de rémunération reproduit dans les club deals, avec pour moi toujours un petit red flag qui s'allume, puisque plus on se rapproche de pratiques des fonds gérés, plus à mon avis, on se. Enfin voilà, si ça marche comme un canard et que ça fait coin-coin, c'est un canard, quoi. Donc voilà, c'est des choses là sur lesquelles il faut être assez prudent, assez modéré. Et c'est un peu le rôle de l'avocat, d'aider à être modéré et pas y aller all-in sur tout ce qui pourrait être de nature à favoriser cette requalification. Exactement. Autre point opérationnel important, c'est le reporting. Je suis actionnaire d'une société qui n'a pas d'autre activité que de prendre des participations. Donc si j'ai pas de reporting sur comment ça se passe au niveau des participations, le droit des sociétés ne me permet pas d'avoir grand-chose. Et donc, il faut prévoir dans des clauses de pacte d'associés ou tout simplement dans les statuts un reporting particulier. Déjà, ça va passer par les différents comités qui seraient éventuellement mis en place dans la gestion des investissements. Et puis, autre point, surtout lorsqu'on est peu nombreux, quels sont les autres membres du club? Est-ce que je ne suis pas assis à côté de mon ennemi juré dans le comité d'investissement?
C'est déjà, ce serait le comble.
C'est important, mais c'est pour moi un aspect opérationnel auquel il faut effectivement faire attention.
Merci beaucoup pour justement ces aspects opérationnels auxquels chaque investisseur ou chaque participant en club deal doit faire attention. Et d'ailleurs, Sylvain est là aussi pour vous aider à creuser toutes ces réflexions-là qui vont vous permettre de définir la structuration de ce club deal. Alors, comment tu conseilles aux investisseurs de gérer efficacement leur levée de fonds pour un club deal, Sylvain?
Alors, ça passe par des due diligence, tout simplement, comme je te le disais. Il y a des points d'attention, il y a des documents à voir. Alors, je vais faire un peu de corporatisme, évidemment. Tu m'as donné une belle perche. Il faut bien faire relire la documentation par quelqu'un qui s'y connaît, qui comprend les enjeux, pas seulement en droit des sociétés. Comme je disais, le sujet, il est dans les deux domaines, droit des sociétés, réglementation financière. Je relis des statuts, l'éventuel pacte. Je mets des points d'attention à mes clients sur la gouvernance. Après, un petit sujet opérationnel aussi du côté investisseur, c'est si je veux bénéficier de cette belle niche fiscale qui s'appelle le PEA, vérifier que ma banque est suffisamment agile et adaptée à cette volonté d'investissement. Et je le disais tout à l'heure, il faut faire super attention au fonctionnement de la gouvernance, aux rémunérations internes, externes, aux commissions d'apport d'affaires plus ou moins cachées et à la gestion des conflits d'intérêts. Et puis, voilà, le carré d'intérêt, s'il y en a un, vérifier quelles sont ses conditions. Est-ce qu'il y a des conditions de rentabilité qui sont mises en place pour qu'il soit éventuellement dû, s'il est mis en place.
Bien sûr.
Et puis, bon, voilà, dans un monde idéal, on peut éventuellement demander à ce qu'il n'y ait pas de carré d'intérêt et qu'il y ait une liquidation préférentielle. Mais
bon, peut faire
ça, c'est un peu la liste au Père Noël, quoi.
C'est vrai que je voudrais revenir sur un élément de réponse que tu as donné, Sylvain. Pour quelles raisons, en fait, il faut anticiper avec les banques, justement, sur les modalités d'investissement sur le PEA? Où est-ce que ça pourrait coincer?
Alors, tout simplement, alors déjà, il y a un sujet de fond, sans parler de la banque, c'est s'assurer avec un fiscaliste que l'investissement qu'on s'apprête à faire, il est tout simplement bien éligible au PEA.
Très bien.
Donc ça, c'est un point de fond. Et après, opérationnellement, c'est très opérationnel. C'est tout simplement possible de faire ça avec ma banque. Parce que les banques ont tendance parfois à proposer des produits un peu packagés, et quand on sort des clous, il faut passer par trois étages de hiérarchie. C'est plutôt ça mon point. C'est ça s'anticipe, parce que parfois quand on fait une levée de fonds sur un club deal, il faut aller très vite rater une souscription parce que la banque demande des documents ou ne comprend pas l'investissement, c'est quand même dommage.
Tout à fait. Merci beaucoup pour cette réponse, Sylvain. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que tu avais deux types de clients, les chefs d'entreprise et les investisseurs, mais il y a aussi des CGP, donc des conseils en gestion de patrimoine, qui pourraient en fait venir te voir pour structurer un club deal, non pas pour eux, mais pour leurs clients. Ça t'arrive souvent, et quel conseil tu donnerais justement à un CGP qui souhaiterait mettre en place un club deal pour ses clients?
Alors ça m'arrive souvent qu'ils m'appellent pour me poser des questions. Ça arrive moins souvent qu'ils aillent jusqu'au bout du process. Ouais. Parce que déjà, je leur rappelle leur propre réglementation et leurs règles de bonne conduite. Et parfois, ils ont envie d'être un peu rémunérés des deux côtés. Ce qui les met dans des situations évidentes de conflit d'intérêts. Si je suis président du club deal que je vais conseiller auprès de mes clients, est-ce bien raisonnable d'être rémunéré des deux côtés?
Il faut évidemment, ça c'est première règle.
Première règle. Là, toute la réglementation, ils sont les CGP, surtout s'ils ont une activité de distribution de titres vifs, ils ont une grande sensibilité à la réglementation normalement. La réglementation FIA, comme je te disais, les conflits d'intérêts, les rémunérations, tout ça, c'est des sujets qu'ils ont normalement bien en tête, donc je le leur rappelle. Je leur rappelle aussi ce que j'ai dit sur le démarchage bancaire et financier. S'il vous plaît, ne vous amusez pas à envoyer 500 messages LinkedIn par jour. Je pense qu'il faut acheter des crédits ou quelque chose comme ça pour pouvoir faire ça. Si j'écris à 300 personnes ou 500 personnes par jour, on n'est plus vraiment dans un club deal, dans un club fermé.
Oui,
quoi.
Tout à fait.
C'est quand même des choses évidentes, mais qui parfois échappent à des CGP tête brûlée. Mmh. Puis après, ils ont des obligations de clarté, d'information assez essentielles. Donc, être super clair sur le fonctionnement du club deal, sur les rémunérations, sur la fiscalité. À quelle sauce leurs clients vont être mangés au titre de ce club deal. Et puis, je le dis, quand je suis avec ma casquette de conseiller aux investisseurs, je leur dis faites attention, pas vous asseoir à côté de votre ennemi juré. C'est un peu pareil. Si je suis CGP et que je suis en train de constituer un club deal, je fais en sorte que les gens s'entendent, tout simplement, et aient un petit peu la même culture.
Très bien. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, tout à l'heure, on a parlé des aspects opérationnels qui sont clés. Est-ce que, en tant qu'avocat, toi qui as de l'expérience, beaucoup d'expérience dans cet univers, Est-ce que tu peux nous donner quelques tips justement sur les aspects opérationnels à considérer lors de la mise en place d'un club deal, ouais, tips, voilà, des conseils évidemment.
Ouais. Alors le point principal, c'est la gestion de la foule. Mmh. C'est un peu la même problématique que pourrait avoir une plateforme de crowdfunding.
Ouais, tout à fait. Ça c'est.
Alors les plateformes de crowdfunding, c'est parfois plusieurs centaines de personnes, et donc bon, on n'est plus sur les mêmes volumes avec un club deal. Mais bon, à partir du moment où je dois gérer 20, 30, 40 personnes, on va se poser des sujets de paperasse, pour citer mes clients. Et donc, on va chercher à automatiser le plus possible, ou en tout cas fluidifier au maximum le process de souscription, parce que c'est comme quand tu fais un tunnel de vente, hein, plus il y a d'étapes et plus tu risques de perdre les gens en cours de route.
Tout à fait.
Donc il faut que ce soit, le plus simple possible, tout en respectant évidemment la réglementation et le droit des sociétés le plus basique. Donc signature du bulletin de souscription, la gestion des flux de paiement, comment est-ce que je fais pour libérer ma souscription, la tenue des registres. Voilà, si je dois inscrire 50 personnes dans un registre, c'est autant que ce soit le plus simplement et rapidement possible. Puis aussi, si je dois gérer les transferts en cours de vie. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas trop de liquidité, mais si jamais des gens arrivent à se mettre d'accord pour faire des sessions de gré à gré, il faut qu'il y ait un teneur de registre aguerri, on va dire. Et puis, je te le disais tout à l'heure, tu as la nécessité, quand tu es dans l'univers non régulé, de t'assurer que tes investisseurs se positionnent sur les opportunités d'investissement. Si tu as 50 personnes à faire voter, comment tu fais?
C'est pour ça qu'il y a la signature.
C'est la signature électronique, tu as les votes par correspondance, mais tu peux aussi imaginer mettre en place une plateforme de vote, des choses comme ça. Donc pour résumer, mon conseil, c'est de peut-être se rapprocher d'une plateforme technique, style BlockPulse, pour ne citer qu'elle, mais il y en a plein d'autres, qui pourront répondre à ce besoin de gestion de flux. Quoi.
Et toi, tu les suis dans le temps, tes clients, justement, ou tu les aides tu structures avec eux le club deal, tu définis la stratégie, mais est-ce que tu vas les suivre pendant toute la durée, justement, de ce club deal pour voir si tout est conforme? Comment ça se passe pour...
Alors, moi, je me positionne d'une façon générale avec mes clients dans une relation de long terme. Je ne suis pas là pour faire des bons coups et puis laisser
partir
les gens dans la nature.
On te connaît, Sylvain.
C'est ça. Le but du jeu, c'est quand même d'être un peu dans la direction juridique externalisée, on va dire, en mode hotline. J'ai une question, j'ai ça qui se passe, etc. Donc, après, moi, je suis pas intrusif.
C'est-à-dire bien sûr.
Si j'ai pas sollicité, c'est que je pars du principe que tout se passe bien et que mes recommandations sont suivies à la lettre, je l'espère. Message pour mes clients. Mon positionnement aussi, comme je te disais, il est double. C'est-à-dire que je vais être sur les sujets de réglementation que je viens de te décrire. Mais je peux aussi accompagner le club deal dans ses prises de participation. Pas sur des projets immobiliers particulièrement,
bien sûr,
mais quand je suis dans le capital investissement, il y a des prises de participation à gérer, des LOI, des protocoles d'investissement, des pactes d'actionnaires, des choses
comme ça.
Très
bien, donc un partenaire à 360 degrés justement.
Exactement.
Donc c'est parfait, c'est parfait aussi pour les entrepreneurs qui recherchent ce type d'accompagnement. Sylvain, une question aussi qui peut faire peur aussi, c'est les pièges entre guillemets fiscaux. Pièges entre guillemets, mais ça peut être vraiment des pièges. Les plus courants auxquels les participants à un club deal justement peuvent être confrontés.
Alors le premier piège, c'est de pas se poser la question de la fiscalité déjà.
Ouais. Justement, c'est pour ça qu'il y en a qui anticipent pas assez ce sujet-là et qui paraît très très important.
C'est ça. En fait, il faut se poser la question de savoir comment je vais récupérer mon cash. Quand je suis investisseur, est-ce que ça va être une distribution de dividendes, est-ce que ça va être une réduction de capital, est-ce que je vais sortir, je te parlais tout à l'heure de la variabilité du capital, est-ce que je vais pouvoir bénéficier d'un rachat de titres, donc tu vas avoir des conséquences fiscales qui vont être différentes selon les flux, selon la situation propre de l'investisseur. Est-ce que je suis une personne physique? Est-ce que je suis une personne morale? Est-ce que je suis à l'étranger ou en France? Je peux parler tout à l'heure du PEA. Est-ce que l'investissement est bien éligible à ce dispositif? Si j'investis dans un club d'immobilier, qu'est-ce qui se passe par rapport à mon IFI? Comme je te disais, le premier piège, c'est de ne pas se poser la question. Ouais. Donc, il y a des fiscalistes qui font ça très bien. Moi, j'encourage tous ceux qui se posent des questions à contacter des fiscalistes. Tu vas avoir aussi des gens qui sont en plus-value et qui vont avoir la nécessité de réinvestir des sommes avec des obligations de conservation des titres reçus en rémunération de cet apport. Vérification essentielle, le club deal dans lequel j'investis, est-ce qu'il est bien éligible à cette obligation de remploi? Et puis, est-ce que j'arrive au bon moment dans le cycle de vie du club deal? Et est-ce qu'il ne va pas y avoir une dissolution dans les 2 ans? Et je ne le sais pas. C'est s'assurer qu'on est bien, qu'on n'est pas en train de... que l'investissement qu'on projette est bien conforme avec nos objectifs de fiscaux et les engagements qu'on prend vis-à-vis de l'administration fiscale.
Alors justement, ce qui peut influencer la fiscalité, c'est la structure aussi du club deal. Alors comment l'un influence l'autre? Comment la structure d'un club deal influence sa fiscalité?
Tu vas avoir, tout à l'heure je te disais que tu vas avoir des SAS, des SA ou des SCI, tout simplement la forme de la société va influencer sa fiscalité selon que le véhicule va être à l'impôt sur les sociétés ou pas. Donc quand tu es dans une SCI qui est dite transparente ou à l'impôt sur le revenu, tu vas avoir une imposition sur les revenus aux revenus fonciers en cas de vente de biens. Dans la SAS, tu vas avoir potentiellement la fameuse flat tax, sauf si tu fais des options à des soumissions liées à l'IS. Enfin bref, tous ces trucs-là que tu connais par cœur. Tu peux éventuellement bénéficier. Alors le véhicule, le club deal peut éventuellement bénéficier du régime de la SCR. Alors la SCR, c'est la société de capital risque, et tu as quand même un point d'attention là-dessus sur la. Donc ça, on est sur la fiscalité du véhicule. Le véhicule qui répond à la définition de la SCR. Un des critères, c'est notamment d'intervenir dans le domaine de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières françaises ou étrangères, cotées ou non. Et ça, pour moi, c'est red flag, parce que on est quand même pas très loin de la définition du FIA. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est une histoire de beurre et d'argent du beurre, encore une fois. Je pense qu'un club deal qui répondrait à la définition de la SCR encourait un risque assez fort de requalification en FIA. Donc c'est un point super important. Après, les club deals ne sont pas tous non régulés. Oui. Un club deal géré par une société de gestion de portefeuille, pour moi, il n'y a pas de sujet. Ça existe, il y en a plein, il y a des gens qui font ça très bien. Et pour moi, il y aurait moins de sujets à pouvoir proposer ce régime de la SCR. Alors si les conditions légales de la SCR sont remplies, c'est quand même assez avantageux. Tu vas avoir une exonération d'IS pour la SCR sur tous les produits et les plus-values nettes qui proviennent de leur portefeuille. Donc c'est quand même assez génial. Tu as aussi une exonération d'IS pour les prestations qui sont fournies par la SCR au profit des participations. Et cerise sur le gâteau, tu as des exonérations partielles sous certaines conditions pour les porteurs de titres de la SCR. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut... Sur lequel on peut, il peut être intéressant de se poser la question de l'éligibilité.
Merci beaucoup Sylvain sur cette question sur les pièges fiscaux. On va retourner sur un peu le côté juridique, les points clés, on va dire, à prendre en compte quand on va rédiger les documents juridiques du club deal. Parce que j'imagine, n'importe quel autre document qui lie aussi des associés, des investisseurs entre eux, comme pourrait l'être le pacte d'actionnaires. J'imagine qu'il y a certaines clauses, certains points qui sont cruciaux et sur lesquels bah, chaque participant à un club deal doit faire attention. Donc, voilà, quels conseils et qu'est-ce que tu pourrais donner comme tips pour bien rédiger cette documentation?
Alors, c'est être super clair, toujours. Et puis surtout, lorsqu'on est investisseur, il faut vérifier ce que je disais tout à l'heure, qu'on est bien dans le cadre sur lequel on s'est engagé. C'est-à-dire, je suis régulé, il y avait une société de gestion, je ne suis pas régulé. Pourquoi est-ce que j'échappe à la qualification de FIA?
D'accord.
Donc, si j'échappe à la qualification, enfin, si la position du porteur de du porteur de projet de club deal, c'est j'échappe à la définition du FIA. Ben, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a effectivement la gouvernance décentralisée dont je parlais tout à l'heure? Et est-ce qu'il y a bien cette démocratie actionnariale? Donc, ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est il faut faire super attention à la rédaction. Il faut que le fonctionnement du club deal permette cette vraie représentativité des actionnaires au sein du process de décision. Autre point important, et c'est le sujet des décisions, des rémunérations, etc. Est-ce que j'ai la main, moi, investisseur, sur la fixation de la rémunération de l'équipe dirigeante? Si oui, comment? Et quelles sont les conditions de détermination de cette rémunération? C'est des choses sur lesquelles il faut évidemment faire attention au moment de la rédaction, ou en tout cas au moment de la signature, puisque la rédaction en général est en amont et pas faite par l'investisseur. Et puis, bah, tous les sujets de liquidité. Moi, je suis investisseur, je veux savoir dans quel horizon je vais pouvoir sortir et dans quelles conditions. Donc, est-ce qu'on prévoit dans le pacte ou les statuts du véhicule
des clauses de sortie,
un drague long, un tag long. Donc, un drague long, c'est un droit de sortie conjointe. Le minoritaire a la possibilité de sortir avec les majoritaires qui quittent le navire. Et ça, j'ai dit quoi? J'ai dit le tag?
Tag long,
je me suis pas pris.
Non, c'est bon.
Et le drag long, c'est l'obligation de cession forcée. Les majoritaires peuvent forcer les minoritaires récalcitrants à céder leurs actions. Donc voilà, ça permet... notamment le tag, d'un point de vue investisseur, d'assurer la liquidité du véhicule et de favoriser les exits. Et puis, ben, est-ce qu'il y a une véritable liquidité entre les porteurs d'actions, entre les actionnaires du club deal? Est-ce que les transferts de titres sont limités ou pas? Est-ce qu'il y a un agrément, une préemption? En général, on essaie de favoriser ces transferts, donc on essaie de faire en sorte que ce soit light. Pourquoi pas prévoir un agrément, parce qu'on est justement dans un club deal et on veut faire en sorte que n'importe qui n'entre pas dans le véhicule.
Alors, tu as évoqué justement les clauses de sortie, Sylvain. Tu as parlé donc de tag along, de drag along, qui permettent donc, soit pour le tag along, de faire la possibilité aux minoritaires de vendre leur part en même temps que les actionnaires majoritaires. Et le dragolon qui, pour le coup, force, on va dire, oblige les minoritaires à vendre leur part au même moment que les majoritaires. Est-ce qu'il y a d'autres clauses de sortie, d'autres structurations qui permettent justement aux investisseurs de pouvoir rendre liquide leur part sans trop de complexité?
Alors, t'as la clause de liquidité. On peut imaginer éventuellement mettre dans le pacte un engagement de la direction ou des majoritaires de faire appel à des gens comme toi pour
Ah bah voilà, ça c'est important que tu le dises, Sylvain.
C'est ça. pour trouver des acquéreurs pour le club deal, pour prévoir cette liquidité des investisseurs. C'est le truc, on va dire, le truc assez classique, quoi. Qu'on voit dans les opérations de capital investissement, mais là, cette clause serait mise au-dessus dans le véhicule directement pour que on puisse éventuellement se retrouver avec une cession de du club deal auprès d'un investisseur tiers. Alors, c'est pas forcément l'hypothèse la plus répandue, mais c'est une clause qu'on pourrait imaginer mettre, au moins. Elle aura le mérite d'exister. Les autres points auxquels il faut faire attention aussi lorsqu'on est investisseur, c'est dans quelle mesure je vais avoir l'obligation de conserver mes titres statutairement. Tout à l'heure, je parlais des obligations que moi, je prends parce que je suis en obligation de remploi. Là, à contrario, c'est dans quelle mesure j'y aurais pas une clause d'inaliénabilité de mes actions de 2, 3, 4, 5 ans, jusqu'à 10 ans. By the way, c'est au-delà de 10 ans, ouais. la clause n'est pas valable.
C'est ça, pour les gens qui nous écoutent, donc clause d'inaliénabilité, c'est pour ça qu'à chaque fois, je lui dis, c'est la clause dont on ne prononce pas le nom, donc en fait, qui interdit, entre guillemets, la vente des titres ou du bien acquis pendant une certaine durée de temps, voilà, pour toute raison, pour sécuriser, pour aussi empêcher toute sortie un peu prématurée. Donc voilà, c'est vrai que on retrouve très souvent cette clause, voilà, dans les packs d'actionnaires. Donc c'est vrai que c'est une clause qui est assez fréquente.
Et je vais rebondir, c'est d'autant plus fréquent dans les club deals que je constate qu'ils sont souvent, comme on a de la foule à gérer, les club deals, comme je te disais tout à l'heure, sont constitués sous forme de SAS à capital variable. Et qui dit capital variable, qui dit variabilité du capital, dit entrée au capital facile, mais normalement sortie aussi facile. Et donc rachat et donc financement de ces sorties. Donc cette variabilité, elle est souvent dans un sens pendant un temps limité, puisque tu vas avoir une inaliénabilité. qui va limiter ces sorties, ces transferts, ces rachats qui pourraient être demandés par l'investisseur dans le cadre de la variabilité du capital.
Merci beaucoup Sylvain. On va parler maintenant peut-être des tendances actuelles. En fait, en matière de réglementation, est-ce qu'il y a des tendances actuelles ou il y a eu des changements récents dans la législation qui pourraient justement affecter à l'avenir ou même présentement les club deals?
Faut que je reprenne un petit peu mes notes.
Bien sûr, je t'autorise, Sylvain, avec grand plaisir.
C'est gentil. Alors après, sur la réglementation, elle a un champ assez large. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, si on devait parler de tendance, c'est que ce que je te disais tout à l'heure, tu la tendance c'est plutôt d'avoir envie de s'éloigner de la réglementation. Ouais. Ça donne envie aux petits acteurs de s'éloigner de la réglementation, de ses lourdeurs et des coûts qu'elle implique. Après, moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'énormes changements récents au niveau de la réglementation sur les club deals. Je veux juste quand même noter, on peut quand même noter quelque part, les club deals sont un peu en concurrence avec les plateformes de crowdfunding. Qui est quand même, après, la comparaison est plutôt à l'avantage des club deals d'une certaine façon. Mes clients, plateformes de crowdfunding, vont me fusiller. parce que, en fait, les plateformes de crowd sont limitées dans les montants à 5 millions d'euros. Là où un club deal va pas avoir cette limitation s'il est dans un cercle récent d'investisseurs ou s'il s'adresse à des investisseurs qualifiés. Et en tout cas, si on est dans aucun de ces deux cas-là, tu pourras aller jusqu'à 8 millions d'euros avec un document d'information synthétique DIS. Donc voilà, la comparaison est en tout cas en termes de montant pur et dur, est assez à l'avantage du club deal. Après, voilà, crowdfunding et club deal ne sont pas du tout comparables parce qu'ils ne s'adressent pas du tout à la même clientèle. Les tickets sont différents. Mais voilà, je voulais quand même relever cette différence de plafond. Après, en termes de réglementation des club deals, comme je te disais, il n'y a pas vraiment de tendance nouvelle. Tu vas avoir plutôt une tendance au contrôle de la part de l'AMF. Pour moi, la réglementation, j'espère que je l'ai rendue claire, mais en tout cas, elle est très établie. C'est assez clair, c'est assez straightforward. On se pose pas trop de questions de comment il faut l'appliquer, en tout cas de mon point de vue et du point de vue de l'AMF. Hein. L'AMF veille régulièrement, parfois avec des sanctions assez importantes, au respect des différentes réglementations dont elle a la responsabilité. Ce qui revient souvent dans les club deals qui seraient portés éventuellement par un CGP, conseiller d'investissement financier pour être plus précis, c'est que si le club deal répond à la qualification de fonds d'investissement alternatif, c'est qu'il est constitué de façon irrégulière, puisqu'il devrait y avoir une société de gestion de portefeuille et donc le porteur de projet l'ignorait de plus ou moins bonne foi. Et le conseiller d'investissement financier qui conseille la souscription de ce produit qui n'est pas ou en fait ouvert aux yeux de l'AMF à la commercialisation, viole tout simplement ses obligations réglementaires et peut-être sanctionné de ce fait.
Merci beaucoup Sylvain. Alors, tout à l'heure, tu as parlé aussi des possibles litiges qui pouvaient arriver entre guillemets entre les investisseurs. Alors, comment justement ces investisseurs peuvent-ils se protéger juridiquement en cas de litige dans un club deal?
Alors, les litiges en général dans le club deal, ils vont être plutôt vis-à-vis de la gouvernance, enfin vis-à-vis, ça va être un litige actionnaire vis-à-vis du dirigeant, quoi. Donc, je l'ai dit, je le répète, il faut faire attention aux clauses de gouvernance. Ça inclut notamment les modalités de révocation du président du club deal. On a quand même envie d'avoir la possibilité de se débarrasser, en tout cas de se séparer, je vais être un petit peu politiquement correct, pardonne-moi, de se séparer d'un président qui ferait n'importe quoi ou qui serait pas au rendez-vous en termes de performance ou... qui pique dans la caisse. Enfin voilà,
ça peut arriver,
ce serait quand même dommage qu'il soit indéboulonnable. parce que statutairement, il y a une protection hyper forte de fait, il a une indemnité de révocation style Golden Parachute tellement élevée que c'est un tue-l'amour et qu'on est. Ouais. On préfère attendre la liquidation, du fonds et du véhicule et puis attendre plutôt que de payer le Golden Parachute qui serait un peu disproportionné. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le club deal, c'est un investissement qui est par les définitions risqué. On a un fort risque que parmi les 1, 2, 3, 10 participations dans lesquelles serait investi le club deal, il y en ait quelques-unes ou au moins une qui partent au tapis, qui aillent en liquidation, au redressement judiciaire. J'ai pas de recette magique pour protéger l'investisseur contre une bombe. Il faut juste s'assurer que l'investisseur il est prêt à prendre ce risque-là et que il y aura d'autres succès qui vont permettre de compenser cette perte sèche qui serait subie par le club.
On parle très souvent, Sylvain, aussi de prudence avant de participer à un club deal. On a parlé tout à l'heure, si tu as parlé des éléments clés, des points clés dans la documentation juridique du club deal. Mais quand un investisseur souhaite participer à un club deal, quels sont les principaux documents juridiques qu'il doit voir, qu'il doit analyser avant de prendre part à ce club?
Alors ça va être assez classique. Je souscris à une augmentation de capital ou je prends des actions nouvelles dans une société, dans une SAS à capital variable. Le minimum des documents que je vais devoir signer, ça va être un bulletin de souscription. Ce bulletin de souscription, il va dire combien d'actions j'ai pris, combien elles coûtent, etc. Où est-ce que je dois verser les fonds pour la libération de ma souscription. Et en général, ils disent que j'ai bien pris connaissance des statuts, voire du pacte. Donc avant de signer un document qui dit que j'ai bien pris connaissance du statut du pacte,
ce serait pas mal
d'en prendre connaissance.
Voilà. C'est ça.
Donc ça, c'est la sainte trinité, on va dire, statut, pacte, bulletin de souscription. Les due diligence sont assez classiques. Si on est dans une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription ou qu'il y en a eu auparavant, on peut peut-être éventuellement demander les rapports des commissaires aux comptes qui sont intervenus pour s'assurer que la levée elle est juste valable, parce que sinon c'est une nullité. Potentielle, relative. Si tu as des actions de préférence qui ont été mises en place, notamment parce que il y a eu un carré d'intérêt qui a été instauré, est-ce que le fameux commissaire aux avantages particuliers est véritablement intervenu? Est-ce qu'il a fait ses diligences? Est-ce qu'il a établi le rapport correspondant? Si tu investis, je dis n'importe quoi, en obligations ou en obligations convertibles, bah, prendre connaissance aussi du contrat d'émission, tout simplement pour savoir quelles sont les conditions. Je l'ai dit tout à l'heure, tu vas avoir peut-être des organes de gouvernance particuliers pour la prise de décision. Donc, est-ce qu'ils ont des règlements intérieurs qui seraient extra-statutaires ou qui ne seraient pas prévus par le pacte ou dans les... Enfin, s'il n'y a pas de pacte et qu'ils sont prévus que dans les statuts, est-ce qu'il y a un règlement intérieur qui serait éventuellement prévu ? Si je dois siéger à ce comité en tant qu'investisseur, bah, je veux connaître le règlement intérieur avant d'accepter cette fonction. Et c'est aussi dans ces règlements intérieurs que tu vas avoir la procédure de sourcing, les gestions des projets, le processus de sélection, la gestion des conflits d'intérêts, la transparence sur les rémunérations. Voilà, est-ce que le projet porté par mon fils qui est soumis à l'investissement du club deal, ce serait quand même pas mal qu'il y ait une procédure pour être sûr que on peut pas voter sur l'investissement.
Bien, enfin, voilà,
ce genre de choses. Je l'ai dit aussi, les rémunérations, se faire communiquer les PV des rémunérations si c'est pas prévu expressément dans les statuts. Voilà, il y a tout un tas de documents, et puis surtout s'assurer qu'il y a dans le pacte ou dans les statuts ou quelque part, en tout cas, des obligations de reporting, du reporting et un accès à un certain nombre d'informations. Puisque comme j'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas accès aux prises de participation quand tu es dans un club deal qui investit en capital, enfin qui est dans le capital investissement. Donc voilà, s'assurer que le reporting de la cible remonte bien au club deal et que le club deal, sa direction, fait bien du reporting auprès de ses propres actionnaires.
Merci beaucoup Sylvain, on arrive au terme de ce très bel échange passionnant. Est-ce que tu aurais des conseils à donner qui synthétiseraient cette discussion, ou alors j'ai pas posé certaines questions et auxquelles tu aimerais apporter une réponse. Voilà, je te laisse vraiment le mot de la fin pour toi, tu as carte blanche, vraiment carte blanche, et voilà, pour clôturer ce très bel échange.
Merci beaucoup, Eliad, déjà pour cette invitation. Le mot de la fin, je vais être un peu lourdingue, mais c'est pas grave. Faites-vous accompagner par un avocat, que vous soyez conseiller en gestion de patrimoine ou tout simplement porteur de projet de club deal. Ne vous aventurez pas au moins dans la partie réglementation sans savoir quels sont les tenants aboutissants et est-ce que vous êtes bien dans les clous. Ça c'est vraiment essentiel parce que les conséquences sont assez terribles. Moi je pense que les club deals c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Comme je disais tout à l'heure, tu es dans cette tendance de la démocratisation du private equity. Moi, j'en suis ravi. Ça me donne du travail.
Ouais, c'est ça. C'est très bien.
Ça me donne du travail.
Et ça donne des sujets de podcast avec ça.
Ça donne
voilà.
Des sujets de podcast, c'est parfait. Enfin, voilà, vive les clubs deals, quoi.
Bah, merci beaucoup, Sylvain. C'était vraiment passionnant. Et comme l'a dit Sylvain, et comme j'aime le répéter aussi, allez voir des avocats spécialisés, donc en l'occurrence pour tout ce qui est droits des affaires ou structuration de club deal, voilà, tout ce qui est en lien aussi avec des investissements. Je vous recommande d'aller voir Sylvain qui saura aussi vous apporter aussi toutes les réponses dont vous avez besoin, ou qui saura effectivement vous mettre en relation avec le bon interlocuteur. Donc voilà, j'aime le répéter, mais c'est très important. Et en tous les cas, j'étais ravi, Sylvain, de faire ce podcast avec toi sur ce sujet très passionnant.
Ravi également, merci beaucoup.
Avec plaisir, à très vite, Sylvain.
Bye bye.